Et voici une nouvelle émission de votre émission Magnificat. Bienvenue, chers amis de Radio Courtoisie et de l'association Marie de Nazareth. Merci de nous écouter fidèlement. Nous apprécions vos échanges, vos courriers. Je vous remercie de votre attention. Pour suivre l'actualité de notre association, je vous invite à vous connecter sur le site internet de l'association mariedenazareth.com. Et à nos abonnés du magazine 1000 raisons de croire, j'adresse cette proposition de nous dire ce que vous avez pensé de notre dernier numéro sur Notre-Dame. Alors cette semaine, Justina, nous parlerons du christianisme comme religion du livre. Bonjour Justina.
Bonjour.
Je rappelle pour nos nouveaux auditeurs que vous êtes orthodoxe, que vous êtes spécialiste en théologie. Et lors de votre master, vous aviez suivi des cours d'homilétique, ce qui vous a conduit providentiellement dans ces locaux pour nous enseigner chaque semaine de nouvelles choses. Merci encore, Justina.
Merci à vous.
Alors ensuite, nous retrouverons Benoît de Florac, avec lequel nous étions la semaine dernière, grâce à qui nous découvrons les écrits de Maria Valtorta. Spécialiste de cette mystique, nous nous appuyons sur vous avec confiance et découvrirons aujourd'hui ce que nous trouvons dans ces cahiers au sujet de la mort. Bonjour Benoît.
Bonjour France.
Justina, nous parlons du christianisme comme religion du livre, mais que cela veut-il bien dire? C'est ainsi que les musulmans appelaient tout d'abord les juifs et les chrétiens, n'est-ce pas? Car Al-Aqtab veut dire gens du livre.
Oui, tout à fait. Et donc moi, je n'affirme rien. Je pose la question et je vais essayer d'y répondre. Donc,
merci.
Peut-on dire que le christianisme est une religion du livre? Pour répondre à cette question, il faudrait définir qu'est-ce qu'une religion et qu'est-ce qu'on entend par le livre. Voir si les termes vont avec le christianisme et le judaïsme. Et enfin, qui utilise aujourd'hui le terme des religions du livre? Enfin, vous l'avez dit, il n'existe pas de définition figée de qu'est-ce qu'une religion. Nous pouvons citer, bien entendu, la définition classique en parlant de l'étymologie et parler de religare. Les plus cités aujourd'hui, donc, c'est soit religare comme relire, relier, pardonnez-moi, et relegere comme relire. Mais de mon point de vue, ces définitions-là ne sont pas suffisantes car on retrouve la tentative de relier les hommes dans des phénomènes qu'on ne considère pas comme religieux, comme le militantisme, les idéologies politiques, tous les supporters de foot sont dedans aussi, et ils sont bien liés entre eux, on ne peut pas dire le contraire. Et la rélecture et la tradition de rélecture des textes se retrouvent facilement aussi dans la jurisprudence. Je propose donc de fonder le propos sur une autre définition, ma préférée, une définition sociologique formulée par Émile Durkheim dans son livre « Les formes élémentaires de vie religieuse ». L'approche de Durkheim nous montre que les religions sont des cultes sociaux et collectifs régulant l'abîme entre le sacré et le profane, le pur et l'impur, le divin et l'humain. D'un point de vue chrétien, Durkheim, en posant la distinction entre le sacré et le profane, évoque sans même le savoir l'abîme apparu entre l'homme et Dieu suite à la chute d'Adam. Les religions pré-chrétiennes dont il parle sont, d'un point de vue chrétien, des tentatives de se relier au divin. Mais ce véritable lien, pour nous, de notre point de vue, ne peut se faire qu'en Christ, qui en lui-même assure le lien éternel à la fois avec le Père, Dieu le Père, et l'homme par sa nature humaine et par sa nature divine. Donc pour parler du judaïsme, nous allons parler uniquement de celui de l'Ancien Testament, pour éviter les hors-sujets avec le judaïsme rabbinique et mystique comme la Kabbale. L'idée centrale du Tanakh, de l'Ancien Testament, est que Dieu est toujours le Seigneur du peuple élu ou du peuple saint. Ainsi, dans le Deutéronome, les tribus d'Israël sont déclarées par Dieu comme lui appartenant, de facto elles sont consacrées par ce dernier. Le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament est ainsi considéré comme kadosh, sanctifié, l'élu de Dieu. Rigoureusement parlant, il s'agit pas tellement d'une élection, mais plutôt d'une création du peuple par le Créateur, car la loi a été imposée aux descendants d'Abraham par Moïse à un peuple venant de s'exiler d'Égypte, sans identité stable, oscillant entre le paganisme et l'énothéisme.
C'est quoi l'énothéisme?
Alors l'énothéisme, c'est une phase transitoire. Donc si nous avons le paganisme, je vais vraiment rendre les choses simples, paganisme polythéiste où nous avons une perception déjà du temps et du monde qui est cyclique.
Oui.
Il existe plusieurs divinités, il y a ce mythe calendaire où à chaque période une divinité rentre dans ses droits. L'énothéisme, c'est un petit peu l'étape intermédiaire entre le paganisme et le monothéisme. c'est l'idée que peut-être que les autres dieux existent, mais on n'en a rien à faire parce que il y en a qu'un qui nous intéresse parce que c'est le nôtre.
C'est le nôtre, oui.
Et effectivement, on retrouve beaucoup de sujets assez énothéistes par moment dans l'Ancien Testament.
D'accord.
Donc, où est-ce que j'en étais ? Voilà. Donc, ce qui prime dans cette relation entre Israël et Dieu, c'est l'idée du contrat conclu en termes juridiques où chaque partie doit respecter sa part. Pour les Juifs, ce contrat est une réalité qui les relie entre eux et qui les engage auprès de Dieu. Et l'abîme entre l'humain et le divin est, hélas, bien présent, d'où un ensemble de règles de pureté qui servent à essayer de contenir l'état de souillure et surtout de justement empêcher le peuple d'Israël de retomber dans le paganisme. Donc le judaïsme est par conséquent, c'est bel et bien une religion. Est-ce qu'on peut parler du livre ? Qu'est-ce qui prime ? Le concept d'un contrat entre Israël et Dieu ou bien un livre ? Bien sûr que ce sont les faits qui précèdent toute fixation écrite. Jacob, nommé Israël, a vécu des siècles avant Moïse, à qui la tradition attribue l'écriture du Pentateuque, qui à son tour est une collection de textes mis en commun par les scribes autour de la période de l'exil de Babylone. Le judaïsme ne connaît pas un livre, mais des livres, classés par genre et par nature de texte. Ces textes ne sont pas tombés du ciel d'un coup, mais ils ont été rédigés au fil du temps par des auteurs différents. Donc on peut parler des écritures, c'est que sous-entend une continuité de la tradition malgré le fait que c'est une compilation de textes. La tradition est toujours avant tout orale, car les écrits ne font que la fixer pour la transmettre plus facilement aux générations futures. D'où le fait de se retrouver aujourd'hui avec deux Torahs, donc écrites de fait, mais la première est considérée comme écrite, c'est-à-dire systématisée et codifiée par les scribes, et la Torah orale qui englobe la Torah écrite en donnant plus de détails et des interprétations possibles. Cette approche de lecture de texte est générale pour le judaïsme et pour les courants chrétiens traditionnels, c'est-à-dire les catholiques romains et les chrétiens orthodoxes. L'écriture n'est qu'une fixation écrite de la tradition orale qui, à son tour, est une expérience personnelle d'une révélation divine vécue par l'auteur. D'où des énormes malentendus entre notre approche de lecture, en pleine conscience que, de tout cela, et les autres traditions de lecture qui prônent la domination de l'écrit sur l'oral. Ils perçoivent les textes sacrés comme un code pénal directement tombé du ciel, et pour qui le changement d'un iota est considéré comme une erreur fatale. Dans leur paradigme, tout changement d'une lettre est perçu comme une falsification du texte et mène à la perte de sa valeur. Et aujourd'hui, nous entendons parler de ce terme des religions du livre de la part des apologètes musulmans. Ceci n'est pas un reproche, mais ils sont pris dans leur propre piège. D'une part, leur doctrine sous-entend qu'ils sont dans une continuité des idées judéo-chrétiennes et que le prophète Mohammed est venu pour rectifier les doctrines entre guillemets falsifiées par des gens du livre. Mmh. Et d'autre côté, ils ignorent totalement le concept de qu'est-ce que l'écriture dans le monde juif ou chrétien et les traditions de lecture qui existaient bien avant l'islam. Il ne serait tout de même pas très évident de rectifier quelque chose dont on ne connaît pas complètement la nature.
C'est sûr.
Et surtout qu'on n'a jamais vu l'original qui n'aurait pas été falsifié. De plus, les mots peuvent avoir plusieurs sens. Quand nous, chrétiens, disons « la parole de Dieu », on peut effectivement parler de l'écriture, mais on parle avant tout du Christ, qui ne peut être réduit jusqu'à seulement un support écrit, selon la parole de saint évangéliste Jean. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, et s'il fallait écrire chacune d'entre elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres qu'on l'on écrirait. Et je rappelle que Jésus-Christ n'a jamais demandé à ce qu'on écrit les quatre évangiles, à ce qu'on écrit les épîtres, à ce qu'on fasse une compilation. C'est notre activité, nous l'avons fait pour des nécessités de service, si j'ai envie de dire, voilà, c'est comme ça. Et c'est notre texte, on en fait quelque part ce qu'on veut, parce que nous sommes dedans. Prendre le texte des Écritures et dire que voilà, c'est une démarche aussi ridicule que comme si j'allais dans une salle de sport, j'allais voler le règlement antérieur et que j'essayais de l'appliquer chez moi, tandis que j'ai pas le matériel, j'ai pas les ballons, j'ai rien, et surtout, ça va me mener nulle part. Donc voilà. Donc je ne pense pas que nous sommes une religion, et encore moins du livre.
Merci beaucoup, Justina. Alors, nous parlerons de la mort après notre pause musicale. un dernier extrait du CD des séminaristes de Lisieux que j'apprécie vraiment beaucoup, car il n'est qu'amour et aujourd'hui nous allons écouter « Ne crains pas ».
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors, lorsque nous avons préparé cette émission sur Maria Valtorta, plus précisément ses écrits, je vous ai dit, Benoît, parlez-moi de la mort chez elle. Auparavant, Benoît, je rappelle que vous êtes le représentant de, j'allais dire, de Maria Valtorta.
De la fondation héritière de Maria
voilà,
Valtorta.
Voilà, c'est ça. Mais il y a un peu ça quand même. Hein. Il faut reconnaître que, voilà, quand on pense Maria Valtorta, on pense à vous. Donc, merci beaucoup pour tout ce que vous nous apprenez sur Maria Valtorta. Alors, dites-moi, la mort, comment le Christ en parle? Et j'ai été très touchée, et vous le serez sans doute aussi, chers auditeurs, parce que quand on a parlé de la mort, vous avez tout de suite parlé de la vie. C'est magnifique, et parce que vous m'avez spécifié que le Christ, pour parler de la mort, parlait de la vie, et fait cette opposition entre la vie et l'existence. C'est très très beau. Alors, dites-moi plus, parce que, voilà, qu'est-ce que c'est exactement la vie?
Plongeons-nous dans la première année publique de la vie de Jésus, relatée au chapitre 118 de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé. Jésus parle à la foule. « La vie dont je parle ne commence pas dans un sein maternel. Elle commence quand une âme est créée par la pensée de Dieu pour habiter une chair, et elle prend fin quand le péché la tue. Voilà pourquoi je dis. La vie ne commence pas avec l'existence et ne se termine pas quand la chair prend fin. La vie commence avant la naissance. La vie, ensuite, ne connaît pas de fin, car l'âme ne meurt pas, c'est-à-dire ne s'anéantit pas. Elle meurt à ce bienheureux destin quand elle meurt à la grâce. Venez à la vie. Cessez d'exister seulement et commencez à vivre. La mort, alors, ne sera pas la fin, mais le commencement. »
Alors, la mort est abordée, hein, comme pouvant être crainte, bien sûr les vivants se plaçant du côté de ceux qui restent, et donc dans une certaine incertitude malgré la foi, souffrent, mais ils souffrent de la séparation. Jésus parle d'amour pour permettre d'aborder la mort sereinement. Dites-moi davantage, Benoît.
Le 9 octobre 1943, Jésus dit à Maria Valtorta : ceux qui ne connaissent pas l'amour et qui n'ont pas la conscience tranquille craignent la mort. Et ils sont la majorité. Lorsqu'ils se sentent menacés de mort à cause d'une maladie ou de l'âge ou pour toute autre raison, ils commencent à avoir peur, ils s'affligent, se révoltent. Ils tentent même de toutes leurs forces et par tous les moyens de fuir la mort. Mais en vain, car quand vient l'heure marquée, aucune précaution ne sert à l'écarter, car on n'évite pas la mort. Bienheureux ceux qui arriveront à cette heure revêtus d'amour à la rencontre de celui qui vient. Leur mort sera paisible comme le passage de mon Père sur terre, lequel n'eut aucun sursaut, car c'était un juste dont la vie fut sans reproche. La fin de ceux qui ont aimé sera joyeuse comme le sommeil de ma mère, qui, sur terre, ferma les yeux sur une vision d'amour, puisque toute sa vie, qui ne connut pas le péché, fut amour, et les rouvrit au ciel en se réveillant sur le cœur de Dieu.
Alors, qu'est-ce que vraiment la mort ?
Jésus nous précise ce qu'est la mort, qui est la naissance à la vie du ciel. Le 10 octobre, dans les cahiers de 43. Cette vie que vous vivez sur terre dans le jour mortel n'est pas la vie. Elle n'est que la formation de votre être futur d'éternel vivant. Je vous porte en moi comme une mère qui forme son enfant. Je vous entoure et vous protège de ma propre personne. Je vous nourris de mon aliment pour vous faire naître immortel à l'heure de ce que vous appelez la mort et qui n'est rien d'autre qu'un passage. Mourir, c'est se séparer de Dieu comme un enfant qui se sépare prématurément de l'organe maternel et se putréfie dans la cavité qu'il expulse dans la douleur. Les morts sont ceux qui, ayant été expulsés ainsi, ne diffèrent pas de la dépouille d'un animal qui se décompose. C'est cela la mort, c'est cela que d'être mort. Le péché est la cause qui vous sépare de Dieu et fait de vous une chair corrompue et putrescente, repas de Satan qui vous a empoisonné pour vous dévorer, proie pour sa faim de dévorateur d'âmes. En vérité, je vous dis que la base de toutes les erreurs qu'on commet sur terre est le péché qui sépare l'être humain de la grâce. Vivez dans la grâce si vous ne voulez pas vous tromper. Alors, comme les enfants qui vont naître se forment et grandissent dans le sein maternel, vous atteindrez votre plein développement pour naître à la vie des cieux. Avec l'éclat de sa lumière, l'Esprit éternel vous salue à votre entrée dans la vie, car il reconnaît en vous une partie de lui-même qui retourne à la source divine dont elle est jaillie. Ô, jour saint et heureux de votre naissance au ciel, béatitude que j'ai préparée pour les humains. La vie sur terre est le temps que je vous donne pour grandir à la vraie vie. Quoique long et pénible qu'il puisse être, ce n'est qu'un instant qui fuit par rapport à mon éternité. Éternité que je vous promets et que je vous réserve. Joie que j'ai conquise pour vous avec ma douleur. Vivez en moi et de moi, enfant que j'aime. La joie qui vous attend est démesurée comme la gloire de Dieu.
Alors donc, après la mort terrestre, corporelle, il y a la mort spirituelle qui est dramatique.
En effet, elle est dramatique. Car la mort spirituelle est la séparation éternelle
c'est
de Dieu.
Ça. Oui.
Dans l'évangile tel qu'il m'a été révélé, au chapitre 98, Jésus nous dit « Sachez que l'âme peut mourir avant le corps, et que, sans le savoir, vous pouvez porter en votre sein une âme en putréfaction. C'est tellement insensible, la mort d'une âme. C'est comme la mort d'une fleur, sans un cri, sans convulsion. » Et dans la deuxième année de la vie publique, au chapitre 225, Jésus nous enseigne « La mort dont je parle n'est pas celle de la chair, mais celle de l'esprit. Viendront ceux qui entendent de leurs oreilles ma parole, l'accueillent dans leur cœur et la mettent en pratique. Ceux-là, même s'ils sont morts spirituellement, recouvreront la vie car ma parole est vie qui se répand. Et moi, je peux la donner à qui je veux parce que j'ai en moi la perfection de la vie. » Ne vous étonnez pas de cette première résurrection, la spirituelle, que j'opère par ma parole. En vérité, je vous dis que rien n'est plus grand que l'invisible, mais réelle, résurrection d'une âme. » Jésus parle aussi de la mort spirituelle le 31 octobre dans les cahiers de 1943. Il y a deux genres de mort. Il y a la petite mort, celle qui vous enlève à la terre et libère votre esprit de la chair. Et il y a la grande mort, celle qui tue ce qui est immortel, votre esprit. Vous ressuscitez de la première. Il n'y aura pas de résurrection de la deuxième pour l'éternité. Vous serez séparés de la vie pour toujours, c'est-à-dire séparés de Dieu, votre vie. Dieu n'a pas créé la mort. Ce sont vos épousailles avec Satan qui l'ont engendré. Adam, votre père dans l'ordre du temps terrestre, l'a engendré avant même d'engendrer son fils. Il l'a engendré en ce jour où, faible devant la faiblesse de la femme, il céda à la volonté de celle qui avait été séduite et il pécha au sifflement du serpent. Mais la petite mort n'est pas un grand mal quand avec elle tombe seulement la chair, telle une feuille qui a terminé son cycle. Au contraire, elle est un bien, car elle vous amène là d'où vous venez et où un père vous attend. Si Dieu n'a pas fait la mort de la chair, il n'a pas fait la mort de l'esprit non plus. Il a même envoyé son Fils, le Rédempteur éternel, vous donner la vie quand vous étiez déjà mort. Les miracles de Lazare, du jeune de Naïm et de la fille de Jaïr ne sont pas grand-chose. Ils n'étaient qu'endormis. Je les ai réveillés. Mais le miracle est grand lorsque, d'un Zaché, d'un Disma, d'un Longin, mort dans l'esprit, j'ai fait des vivants dans le Seigneur. Être vivant dans le Seigneur. Il n'y a rien de plus grand en beauté, en joie, en durée, en splendeur. Croyez-le, mes enfants, et tâchez d'être vivants. Vivant en Dieu, unique et trine, vivant dans le Père, vivant pour l'éternité. Vous qui appelez la terre enfer, et quoique infernal que vous l'ayez rendu par la barbarie de vos systèmes, c'est un paradis comparé à la demeure de Satan. Ne donnez pas l'enfer comme destination ultime à votre esprit, et laissez l'enfer aux divinités infernales, aux damnés, aux maudits, qui ont rejeté la vie, nourriture répugnante à leur cœur perverti, et qui ont accueilli la mort dont ils étaient bien dignes. Ne pensez pas que Dieu soit injuste dans la manière dont il distribue les biens de la terre et la durée de la vie. C'est ce que pensent ceux qui vivent déjà hors de Dieu. Ceux qui vivent en Dieu se font une joie des privations, des peines, des maladies, de la mort précoce, car ils voient en toute chose la main du Père qui les aime et qui ne peut que leur donner des choses bonnes et utiles. Ces mêmes choses, d'ailleurs, qu'il m'a donné à moi, son Fils. Ceux-ci, déjà projetés hors de ce monde, pensent uniquement à la gloire de Dieu et ne désirent qu'elle, et Dieu les revêtira de gloire pour l'éternité. On oubliera les méchants, ou on se souviendra d'eux avec horreur. Mais on rendra un culte durable aux saints, aux justes, aux enfants de Dieu, car le Seigneur s'occupe de ses bien-aimés. Non seulement il s'occupe de leur donner la joie au ciel, c'est-à-dire lui-même, mais de plus il leur fait rendre un honneur véritable par les humains en faisant briller à leurs yeux et à leur intellect, telle une nouvelle étoile, l'esprit d'un saint.
Alors en fait, Azarias, dont nous avions parlé la dernière fois, l'ange de Maria Valorta, nous offre un moyen pour éviter la mort spirituelle.
La crainte de Dieu qui préserve des fautes donne à l'esprit de l'homme une vue sûre. L'esprit qui voit ne peut que croire en Dieu et en sa parole, se sauvant ainsi de la mort spirituelle. Jean, le précurseur, prêchait la crainte de Dieu pour préparer les chemins du Christ qui venait sauver son peuple. Jésus, le Sauveur, prêcha l'amour pour porter son peuple sur la voie du salut. La crainte précède toujours l'amour. C'est, pour ainsi dire, l'incubation de l'amour, c'est la métamorphose du sentiment vers un degré plus élevé. La crainte est encore au niveau de l'homme, l'amour est déjà au niveau de l'esprit. L'homme qui craint Dieu est indéniablement sur la bonne voie. Si sa crainte est juste, en d'autres termes, s'il ne s'agit pas d'une peur ignorante et irraisonnée de Dieu. La crainte est toujours un sentier battu pour celui qui n'a pas encore libéré ses ailes pour voler vers une plus haute connaissance de ce qu'est Dieu. Miséricorde et amour. L'homme qui craint se sent encore châtié à cause de la faute originelle et des siennes actuelles. L'homme qui aime se sent pardonné par les mérites du Christ et revêtu de ces mêmes mérites, au point que le Père ne le voit plus comme un sujet, mais comme un fils. Si la crainte est bonne pour tenir le mort et les rênes de la matière, l'amour est sublime pour mettre la chaleur de la sainteté dans l'esprit.
Merci beaucoup, Benoît. Merci d'être revenu cette année pour nous parler de Maria Valtorta. Je la découvre chaque fois un petit peu plus. Je vous invite, chers amis auditeurs, à vous rendre sur notre boutique en ligne pour que vous puissiez vous offrir le livre que Benoît de Fleurac a coécrit avec François-Michel Delboise, intitulé « La force des martyrs dans les écrits de Maria Valtorta ». Et la préface est de Véronique Lévy.
Tout à fait.
Voilà, cela vous donnera sans doute envie de vous plonger ensuite dans les nombreux tomes de ses écrits. J'ai beaucoup aimé ce livre sur les martyrs, je vous l'avais dit du reste. Voilà. Alors Benoît, on se retrouvera certainement l'année prochaine, si vous voulez bien revenir.
Avec plaisir, France.
Merci beaucoup. Bonne semaine, chers auditeurs. À dimanche prochain et merci encore, Justina.